Affiche. La plénitude de l'alliance. Alors, je vais vous citer trois versets ce matin et vous, peut-être en découvrant le premier, vous ne saurez pas répondre, peut-être en découvrant le deuxième, vous ne saurez pas répondre, peut-être qu'avec le troisième, vous aurez quand même une idée. Normalement, vous devriez avoir une idée parce que vous avez déjà eu la réponse. Donc, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Est-ce que vous pouvez me dire de quel livre de la Bible ce texte est tiré? Alors, si vous ne savez pas encore, le verset suivant. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Ça y est, il y en a qui ont trouvé? Toujours pas? Bon, avec celui-là, maintenant, vous savez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et là, tout le monde dit « Bravo !» Effectivement, ces trois textes sont tirés du livre de Malachie. Nous allons ce matin continuer notre étude de quelques livres des petits prophètes. Rappelez-vous, le 10 août, nous avons parlé de Hagé, pour ceux qui étaient présents. Ils nous exhortèrent à mettre Dieu en premier dans nos vies. Et je vous propose de découvrir Malachie, de voir comment ce livre peut nous encourager à considérer l'alliance que Dieu a faite avec nous d'un œil nouveau ou dans une vision renouvelée. Alors d'abord, qui est Malachie? Que savez-vous à son sujet? On ne sait pas si ce nom, c'est son nom véritable, si c'est le nom d'une personne, mais Malachie, ça signifie « mon messager » en hébreu. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est l'homme envoyé par Dieu pour transmettre un message à son peuple. On n'a aucune information biographique concernant Malachie. Souvenez-vous, pour Hagé, on pouvait même savoir exactement à quelle date il avait commencé à prophétiser et à quelle date il avait terminé sa prophétie. Là, on ne sait rien du tout sur Malachie. Et de cette façon, l'accent n'est pas mis sur le messager, mais sur le message qui est transmis. L'Éternel parle à Israël. Et c'est d'autant plus important que ce prophète, c'est le dernier envoyé, et le dernier envoyé amené à prophétiser et parler au nom du Très-Haut dans l'Ancien Testament. Après qu'il ait averti les foules, il se passera plus de 400 ans dans le silence avant d'entendre un nouvel envoyé de la part de Dieu. Et cet envoyé, ça sera... plus fort? Oui, Jean-Baptiste. Je suis une vieille maman un peu sourde, ayez pitié de mes oreilles. Donc, le messager suivant, après Malachie, c'est Jean-Baptiste. On sait que Malachie a délivré son message aux alentours de 430 avant Jésus-Christ. Il s'adresse au peuple d'Israël. Et en lisant le texte, il est intéressant de constater que ce peuple d'Israël semble être en particulier celui qui est revenu à Jérusalem après la déportation. En effet, il parle de ce qui se pratique dans le temple, du service des prêtres, en opposition à ce qui se vit parmi les autres nations. Alors, quelle était la situation de ces hommes présents à Jérusalem ? Ils sont revenus dans la ville sainte avec l'autorisation de Cyrus pour pouvoir reconstruire le temple et rétablir le culte envers Dieu. Nous avons vu la dernière fois que Agée et Zacharie les ont exhortés à mobiliser leurs forces pour achever le travail de reconstruction, alors qu'ils étaient en proie à des attaques et des circonstances adverses. Au moment où Malachie prophétise, le service a repris de façon effective et durable dans le temple. Mais les Israélites se refroidissent. Le temple est opérationnel, mais les prêtres ont abaissé les normes qui ont été fixées par Dieu en raison de leur service peu enthousiaste pour le Seigneur. La piété du peuple de Dieu est à nouveau dangereusement basse. Ceux qui sont restés à Babylone continuent à prospérer alors qu'à Jérusalem la vie est difficile. Alfred Kuhn, dans son livre 66 en 1, qui nous présente les 66 livres de la Bible, écrit « En effet, le décret de Cyrus de 516 permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Mais tous ne profitèrent pas de cette autorisation. Ceux qui s'étaient enrichis vivaient confortablement à Babylone. Pourquoi affronter les rigueurs d'une vie de pionnier ? Ceux qui revinrent à Jérusalem durent faire face à bien des difficultés. Il fallait tout reconstruire, défricher les terrains abandonnés, lutter contre les habitants du pays, endurer la sécheresse et la famine. De plus, certains juifs fortunés prêtaient de l'argent à leurs compatriotes pauvres et leur réclamaient des taux usuraires. Vous pouvez lire toutes ces descriptions dans le livre de Néhémie au chapitre 4 et 5. La vie est dure à Jérusalem, gémissaient les rapatriés. Est-ce qu'elle correspond à l'accomplissement des promesses de Dieu ? Beaucoup se mettent à douter de sa bonté et même de sa justice. Qu'est-ce qu'on gagne à le servir ? Le résultat, le culte devient superficiel et formaliste. Les prêtres eux-mêmes négligent leur service. On offre à Dieu des bêtes défectueuses. Le scepticisme et l'indifférence gagnent le peuple. On vole Dieu sur ce qui lui revient. La moralité s'abaisse. Les adultères, les parjures, la fraude et l'oppression sont à l'ordre du jour. On abandonne la femme de sa jeunesse pour épouser des étrangères. Fin de citation. Cette dégradation de la vie spirituelle des Israélites de l'époque de Malachie peut malheureusement se retrouver dans notre propre vie lorsque nous laissons les événements extérieurs s'interposer entre Dieu et nous. Du coup, en constatant combien notre vie devient pauvre, nous pourrions nous lamenter sur nous-mêmes. Nous pourrions être en auto-flagellation constante. Du style, je suis indigne, je suis nul, je ne vaux pas mieux que les Israélites, Dieu ne peut rien faire avec moi. La bonne nouvelle apportée par Malachie est que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il va envoyer un Messie qui va le purifier et le guérir. Vous retrouvez cela en Malachie 3, les versets 20 et 21. Et cette bonne nouvelle qui a été annoncée au peuple juif à l'époque, mais elle est aussi pour nous qui croyons en Dieu. Alors voyons, tout au long de ce que j'appelle un dialogue de sourds, comment Malachie va faire entendre au peuple la voix de Dieu qui veut l'interpeller sur sa conduite. Tout l'échange entre le peuple et Dieu suit un même schéma et traite de problèmes différents qui ont pourtant un lien commun. Chaque manquement du peuple vis-à-vis de Dieu est une rupture de l'alliance qui est proposée par le Seigneur. Donc, il y a 7 points importants dans ce dialogue et j'ai relevé ces 7 points. Alors, je sais que le tableau sera un peu petit, c'est pour vous donner une idée de voilà comment j'ai procédé, mais vous n'avez pas besoin de lire les choses parce qu'on va se focaliser sur chacun des points l'un à la suite de l'autre. Je n'ai pas pu non plus recopier l'intégralité du texte de chaque partie parce que c'était trop long, mais j'ai pris les éléments essentiels et je vous invite à relire ce livre du prophète Malachie chez vous à tête reposée. Donc reprenons les différents éléments de ce dialogue pour comprendre en quoi il présente l'alliance que Dieu a voulu établir avec les hommes et comment elle a été méprisée par ceux-ci, par nous peut-être. En tout premier lieu, Dieu déclare son amour pour le peuple d'Israël. Et pourtant, la première objection, c'est « En quoi nous as-tu aimés ?» Ça montre le doute de ces hommes. Et pourtant, la réponse de Dieu va nous surprendre. Mais c'est un gage d'amour pour Israël. Parce que Dieu répond « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» demande l'Éternel. « Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. » Quelle réponse bizarre de Dieu pour dire à son peuple qu'il l'aime. Mais il rappelle ainsi aux Israélites que c'est eux qui sont le peuple élu, eux qu'il veut restaurer. Le retour d'exil et la reconstruction du temple, la restauration du culte dans le sanctuaire en est un signe visible. Est-ce que nous-mêmes, nous nous émerveillons à chaque fois que nous venons dans ce lieu d'être aimés de Dieu, de pouvoir nous réunir librement pour le louer, de pouvoir continuer à nous réunir dans ce lieu qui a pu être réhabilité pour que Dieu soit glorifié à Clermont-Ferrand, dans ce quartier et de différentes façons, grâce à maintenant 3 communautés qui le font vivre ? Ou bien est-ce qu'on trouve tout ça normal, sans nous poser plus de questions, sans nous demander qui a voulu que le culte soit maintenu en ce lieu ? Qui aime les hommes plus que tout et désire que son salut soit annoncé ici même ? Considérons tout à nouveau cette alliance d'amour que Dieu fait avec nous. Et il le proclame lui-même, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Il n'est pas là que pour nous, il est là pour cette ville et il aime tous les hommes. Dans un deuxième temps, Dieu dit, « Où donc sont les honneurs qui me sont dus ? Pourquoi ne me révérez-vous pas ?» Et alors, que répondent les Israélites ? En quoi est-ce qu'on t'a méprisé ? Et Dieu leur répond, entre autres, « Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. » Dieu demande de recevoir l'honneur qui lui est dû. Les Israélites ont pris la mauvaise habitude d'apporter en sacrifice des bêtes malades ou chétives. Le culte a bien lieu, mais sans que l'honneur dû au Seigneur y soit respecté. Pourtant, la loi était claire. Il fallait offrir des bêtes sans défaut. Et quand vous poursuivez la lecture, vous pouvez remarquer l'ironie du Seigneur à la fin du verset 8. Du chapitre 1, il déclare « Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous ou vous fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Avec ironie, Dieu fait un constat terrible. Ce que tu n'oserais même pas offrir à celui qui possède une autorité terrestre sur toi, tu n'hésites pas à l'offrir à celui qui règne dans les cieux. Finalement, les Israélites rendaient un culte à Dieu par habitude, par devoir, sans plus trop se poser la question du sens de chaque chose. Alors, ils pouvaient bien substituer telle bête à telle autre. Ils avaient perdu de vue l'honneur de leur Créateur. De nos jours, nous n'offrons plus d'animaux en sacrifice ou des offrandes végétales à Dieu. Pourtant, l'exigence de Dieu envers nous n'en existe pas moins. Nous sommes appelés à continuer à l'honorer, le respecter. Si nous venons seulement au culte par habitude, parce que c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on est chrétien, sans se rappeler quel en est le sens, Si nous nous réunissons chaque dimanche à l'église comme si nous venions à la réunion d'un club de bridge ou d'un thé dansant, quel sens, quelle dimension donnons-nous à notre relation avec Dieu ? Notre fils, Matthieu, avait peut-être une dizaine d'années et un dimanche matin, il nous demande « Mais pourquoi on est obligé d'aller à l'église ?» Et en plus, chaque dimanche, il savait que les copains, le dimanche matin, ils faisaient tout autre chose. Alors, avec Hervé, on lui répond « Mais on n'est pas obligé d'aller à l'église, mais nous avons envie d'y aller. » Parce que c'est le lieu où nous adorons Dieu avec nos frères et sœurs. Et lui, il nous répond, « Eh ben, moi, ce matin, je n'ai pas envie d'y aller. Moi, vous m'obligez. Moi, je reste à la maison aujourd'hui. » Alors Hervé et moi, on s'est regardés et on s'est compris d'un regard. Et on lui explique qu'on ne peut pas le laisser tout seul à la maison. Qu'on va donc rester avec lui et qu'on fera un culte en famille. Bon, cette solution lui convenait. Donc on a fait un temps de culte en famille et puis on est resté, on a passé notre matinée à la maison. Alors c'est vrai, vous me direz qu'on était les parents, on aurait pu le forcer. Mais si on le force à ce moment-là, on s'est dit qu'on va encore plus le dégoûter, le détourner du plaisir d'aller au culte. Donc, on s'est senti vraiment poussé par Dieu à agir ainsi. Figurez-vous que le dimanche suivant, notre fiston était le premier à se préparer pour aller au culte. « Mais tu fais quoi ?»« Bah, je me prépare pour aller à l'église. »« T'as envie d'y aller aujourd'hui ?»« Ah oui, finalement, ça m'a trop manqué la semaine passée de ne pas être avec les autres pour le culte. » Et en fait, notre attitude lui avait permis de comprendre sans faire un long discours. Alors moi, ce matin, je vous ai peut-être fait un long discours, mais j'espère que cela vous amène à réfléchir pourquoi vous venez le dimanche matin au culte. Nous sommes invités dimanche après dimanche à venir louer et adorer notre Dieu, non comme une contrainte, mais avec joie, avec amour et respect. Tout comme Dieu a fait alliance avec la tribu de Lévi pour que la pratique du culte démontre le respect et l'honneur qui lui est dû, il veut continuer à faire alliance avec nous pour que nous l'adorions au milieu de la communion fraternelle avec nos frères et sœurs, conscients de notre privilège d'être ses enfants. Le troisième point, ce sont les prêtres qui sont interpellés par Dieu. C'est pour ça que je vous ai bien remis le mot prêtre. Ils conduisent le peuple sur les chemins de la désobéissance. Il leur dit, « Prêtres, vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. » Et les prêtres répondent, « Ne sommes-nous pas tous tes enfants d'un Père unique ? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu ?» Mais Dieu leur explique, « Le peuple de Juda a été infidèle, et on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. » Donc dans ce passage, Dieu rappelle qu'il a choisi la tribu de Lévi pour qu'elle assure le service dans le temple. Elle a reçu un honneur, celui d'être au plus proche de Dieu. Elle a une obligation, celle d'être exemplaire. Nous n'avons plus de Lévites, hein, nous n'avons plus les prêtres qui sont issus de cette tribu. Pourtant, nous sommes des personnes que Dieu appelle à son service. En 1 Pierre 2,9, nous pouvons lire « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Nous sommes devenus les Lévites et nous entrons dans l'alliance d'obéissance que Dieu avait conclue avec la tribu de Lévi. Nous avons accepté une obligation d'exemplarité en acceptant le salut offert en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'en entrant dans cette alliance, Jésus nous l'a promis, et cette promesse a été accomplie à la Pentecôte, de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous aider et nous conduire sur ce chemin de consécration. Ce n'est pas avec nos propres forces, par l'égalisme, que nous pouvons obéir, mais c'est parce que Dieu nous donne les forces d'y parvenir. Le prochain point concerne le non-respect de l'alliance que les humains concluent eux-mêmes entre eux en usant de faux prétextes pour se rétracter. La déclaration de Dieu, c'est « L'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. » Les hommes répondent « Pourquoi en est-il ainsi ?» Et l'explication, c'est parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Alors, ce que Dieu va pointer du doigt, ce n'est pas les questions de divorce ou des choses comme ça. Mais si vous vous penchez sur le texte, vous comprendrez que Dieu accuse les hommes qui se détournent de la loi en épousant des femmes étrangères, puis de ceux qui divorcent de la femme de leur jeunesse. Parce que dans le premier cas, à l'époque, les mariages avec les femmes étrangères étaient interdits. Et dans le second cas, les Israélites se justifient en prenant l'exemple d'Abraham qui a pris une autre femme que Sarah. Alors, ça leur donne le droit à eux aussi de faire la même chose. Abraham a fait, c'est notre père, on fait pareil. Donc, ce que Dieu veut considérer, ce n'est pas les causes ou le droit de divorcer, mais les fausses excuses que l'on se donne pour rompre une promesse. Mais est-ce que nous-mêmes, on ne se donne pas parfois de fausses excuses dans d'autres domaines, pas celui de la sexualité? Par exemple, à l'Église, nous nous sommes engagés dans un service, mais nous n'avons pas mesuré le retentissement que cela va avoir dans nos vies. Alors, nous rompons l'engagement de régularité ou de ponctualité avec de mauvaises excuses. Nous grignotons de plus en plus de minutes sur l'heure d'arrivée en nous justifiant de façon bien maladroite. Et nous rompons quelque part cet engagement que nous avons pris, l'alliance que nous avons conclue avec tel ou tel responsable. Alors, en ce début d'année, en ce culte de rentrée, il est sans doute bon de pouvoir considérer les engagements que nous avons pris ou ceux que nous nous apprêtons à prendre pour servir l'Église, afin de bien peser tous les termes du contrat et vérifier que nous pourrons les respecter. Il n'y a pas de loi, pas d'obligation de servir, mais prendre un engagement nous lie dans une alliance de redevabilité dont l'Éternel est témoin. Relisez, il a reproché aux Israélites de rompre l'alliance qu'ils avaient conclue avec la femme de leur jeunesse et dont lui, le Seigneur, avait été le témoin. Gardons-nous d'être ceux à qui il pourrait adresser le même reproche. Dieu déclare ensuite « Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. » Je crois que j'ai fait une erreur parce que ça ne correspond pas à mon texte. Comment devons-nous revenir? En quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Donc, dans ce nouvel échange, Dieu accuse les hommes d'avoir rompu l'alliance avec lui en le volant. Et nous avons lu Malachie qui déclare « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Alors, on pourrait discuter longtemps de ce que doivent être les dîmes et les offrandes justes que nous devons apporter à Dieu. La discussion risque d'être longue, stérile, et je préfère laisser au Saint-Esprit l'opportunité de travailler nos cœurs à chacun, afin que nous examinions chacun devant Dieu si nous lui apportons avec justesse ce qu'il attend de nous. Non, ce qui me marque dans ce verset, c'est la deuxième partie. Les Israélites n'apportaient pas la totalité de ce que la loi exigeait d'eux. Ils étaient trompeurs, voleurs et tricheurs. Mais ce que Dieu leur propose, c'est un marché. « Mettez-moi à l'épreuve, remplissez votre part du contrat et vous verrez bien ce que je ferai. » Et moi, je lis dans ce verset bien connu le désir de Dieu de bénir, de combler. Mais il ne peut pas, parce que les hommes en face de lui l'en empêchent. Sa justice ne peut se satisfaire de leur tromperie et les flots de bénédictions qu'il veut déverser ne peuvent alors être libérés. Ce texte met en lumière une vérité biblique à laquelle nous nous arrêtons si peu, me semble-t-il. Nous sommes nous-mêmes les personnes qui empêchons Dieu de nous bénir parce que nous nous dispensons d'accomplir telle ou telle chose qu'il nous demande. Une illustration m'est venue en tête, c'est celle du jeune garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons dans Jean 6. Ce qu'il avait dans son panier à ce moment-là, ça devait être tout juste suffisant pour nourrir sa famille. Alors il a dû être bien tiraillé entre le désir d'aider les siens et le désir de plaire à Jésus. Et moi, je comprends vraiment qu'on puisse être tiraillé à ce moment-là. Je me mets à sa place. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et finalement, je comprends bien qu'on décide parfois de suivre la voie de la sagesse humaine, parce que c'est tellement difficile de sacrifier les siens. Pourtant, on oublie de considérer un point essentiel dans ce choix, c'est la situation lorsqu'on aura fait le choix. Et considérer l'issue, ça peut nous aider à faire pencher la balance du bon côté. Alors, réfléchissons. Si le garçon garde ses pains et ses poissons, tout va bien. Sa famille pourra encore manger ce soir. La situation, les pépères. C'est calme, c'est tranquille pour lui. Maintenant, si le jeune garçon donne ses pains et ses poissons, il n'aura plus rien. Sa famille sera dans le besoin. C'est rationnel, n'est-ce pas? C'est évident. Évident, non, parce que finalement, on n'a pas pris en compte le facteur Jésus, miracle. Nous l'avons lu dans Malachie, Dieu veut combler avec surabondance de sa bénédiction. Et finalement, en faisant le choix de donner, l'enfant a déclenché le miracle. Les 5000 hommes ont reçu à manger et l'enfant a gardé la nourriture pour sa famille et même plus puisqu'on a encore rempli 12 paniers de restes de nourriture. Nous avons tendance à rationaliser à notre époque et à penser que ce genre de miracle ne peut plus avoir lieu. Alors moi aussi, je vous lance un défi. Lisez Malachie et mettez le texte en pratique. Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Est-ce que nous voulons entrer dans cette alliance de confiance et de dépendance à Dieu ? Je reviens sur le point que je n'ai pas trouvé. Non, j'ai fait une erreur. Il y a le point entre les deux qu'on vient de voir, où Dieu se présente comme étant le Dieu de la justice et de la vérité. Mais dans ce domaine encore, l'alliance est rompue. Nous lisons en Malachie 2,17 « Vous lassez l'Éternel par vos discours et puis vous demandez « En quoi te lassons-nous » C'est parce que vous dites « Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel, il a plaisir à ces gens-là. » Ou bien encore « Où est le Dieu de la justice ?» Et là, nous remarquons que les hommes qui sont dans cette rupture successive d'alliance semblent ne même plus avoir confiance en Dieu. À leurs yeux, Dieu ne fait plus œuvre de justice et de vérité. Les méchants prospèrent, les pauvres sont opprimés. Mais là, on peut constater un changement dans la réponse apportée par Dieu. La réponse de Dieu au chapitre 3, c'est la venue de l'ange de l'Alliance. Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi, et soudain, il viendra pour entrer dans son temple le Seigneur que vous attendez. C'est l'ange de l'Alliance appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Finalement, malgré des paroles presque blasphématoires du peuple, hein, qui dit que « mais Dieu, tu considères que le bien, c'est le mal, et le mal, c'est le bien », Dieu ne vacille pas. Il va envoyer son ange. Et à travers l'annonce de la venue de cet ange, nous pouvons comprendre qu'il annonce la venue du Seigneur. Quelle façon éclatante de réaffirmer son alliance avec les hommes, alors que eux le rejettent et le méprisent. Et donc les Israélites doutaient. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, parfois des circonstances où vous doutez? Et je ne parle pas là de petits tracas, mais de problèmes incroyablement difficiles à vivre dans notre vie ici-bas. Par exemple, pour ma part, pour notre part à Hervé et moi, lorsque, après avoir vécu 3 grossesses extra-utérines et 5 fausses couches, nous devions croire à cette exhortation de Dieu pour notre couple. Mariez-vous, soyez féconds et multipliez. Comment ne pas douter? Comment croire encore que c'était bien ce que Dieu attendait de nous alors qu'il nous avait donné cette parole? Mais pourtant, Dieu tient ses promesses, tout comme il est le Dieu de la justice et de la vérité. Il nous a permis de nous occuper de dizaines d'enfants au Cameroun, de partager son évangile autour de nous, d'aider des frères et sœurs à être affermis dans leur foi. Et ça, c'est aussi une forme de fécondité, n'est-ce pas? Il nous a rendus féconds de 2 beaux enfants et nous a permis de nous réjouir maintenant de voir grandir nos petits-enfants. Mais oui, il a accompli sa promesse pour nous, pas de la façon dont nous l'avions comprise. Nous avons souffert. Et là est peut-être notre problème d'êtres humains. Nous imaginons toujours qu'il y a une seule façon de comprendre les choses. Et nous avons du mal à accepter que les choses peuvent avoir une autre façon d'exister, de se réaliser. Mais ne nous détournons pas de l'alliance que Dieu a engagée envers nous parce que les événements de notre vie ne se déroulent pas comme nous le voudrions. Laissons Dieu nous émerveiller par des choses encore meilleures qu'il a en vue pour nous. Ne soyons pas des Israélites tristes et désabusés. Soyons des enfants de Dieu fidèles et enthousiaste. Et finalement, c'est peut-être Dieu qui a voulu que je me mélange dans mes slides, parce que nous arrivons au dernier point soulevé par le prophète. Et il rejoint le point sur cette tristesse, sur le fait d'être désabusé. Parce que finalement, malgré tout ce qu'il a déclaré aux hommes, Dieu ne semble pas les convaincre. Il garde leur cœur dur. Il le dit, « Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. » Et eux, innocemment, « Quels propos avons-nous proférés contre toi ?» Et en fait, voilà ce qu'ils ont déclaré. Il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui, obéissant et menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. L'amertume et le découragement ne semblent pas pouvoir être ôtés de leur cœur. Finalement, que dire de plus? Je ne suis pas à la place du Seigneur et ne pense pas pouvoir m'y mettre, mais quand même, si j'étais à sa place, moi je partirais, hein. Parce que franchement, on ne peut rien leur faire comprendre. Et est-ce que nous voulons nous-mêmes être ces croyants qui portent sur eux le masque de la dureté, de la tristesse et du découragement, en décourageant les hommes et les femmes qui nous entourent de venir à Dieu? Peut-être vous allez penser à des personnes, mais il est de ces chrétiens, en effet, qui vivent à travers des lois dures qu'ils se fixent en disant que ce sont les lois de Dieu parce qu'ils ont mal compris sa parole. Ils sont tristes, ils sont ternes, ils sont gris. Ils découragent de s'intéresser à Dieu. Pourtant, en revenant vers lui et en nous repentant, en nous détournant de nos mauvaises pratiques, de nos compréhensions erronées, comme il a exhorté le peuple d'Israël tout au long du livre de Malachie, il nous promet un avenir de joie et de victoire en sa présence. Le prophète emploie une image inattendue pour parler de ces personnes nées à une nouvelle vie. Il déclare en Malachie 3:20 « Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. » Quelle image intéressante, gambader comme des veaux à l'engrais. Nous pouvons faire un choix ce matin, celui d'une vie tranquille, pépère, peut-être même douillette selon les critères de ce monde. Mais si nous avons entendu que Dieu nous interpelle sur un point ou un autre, alors nous allons nous dire oui, quelle importance finalement. Ou bien est-ce que nous voulons choisir de vivre une vie d'exubérance comme celle du veau à l'engrais? Est-ce que vous avez déjà vu comment les jeunes animaux gambadent comme des fous au premier jour du printemps dès que le temps leur permet de sortir? C'est ça la promesse pour nous si nous nous laissons guérir à la lumière de Dieu. Finalement, avec Malachie, nous nous rappelons que l'alliance que Dieu nous propose touche tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas? La nouvelle alliance qui est annoncée par le prophète, avec la venue de l'ange de l'alliance, rétablit dans une bonne configuration tout ce qui pourrait être bancal et biaisé. C'est aussi cela que nous avons rappelé ce matin en prenant la Sainte Cène tous ensemble. Il est venu mourir pour nos fautes. Ses meurtrissures nous ont guéris, elles nous procurent la paix. Cette alliance, Jésus l'a scellée de son sang versé pour nous. Alors je prie que, pour notre nouvelle année de vie d'Église, il puisse en être ainsi pour chacun de nous. Que nous puissions vivre l'excitation que vivent ces jeunes bovins dans leur vie toute neuve qui ne dépend que d'une chose. Se nourrir abondamment des bonnes choses que Dieu a préparées pour eux. C'est tout simplement cela, vivre dans une alliance de plénitude, comblée d'amour et de bénédiction, dans un abandon confiant à la volonté de notre Dieu. Amen. Prions.